Encore une fois, un grand merci à Dieu en premier pour tous les dons qu'il a donnés à son Église, ceux qui ont des dons de la musique, ceux qui peuvent chanter, jouer quelques instruments que ce soit. C'est vraiment une grande bénédiction. Alors ce matin, nous allons continuer notre étude du livre de Néhémie. Un livre qui parle de la reconstruction de l'œuvre de Dieu à Jérusalem d'un point de vue matériel, la reconstruction des murailles, et aussi d'un point de vue spirituel, la reconstruction du peuple de Dieu. Et un livre dont le personnage principal qui est Néhémie, un homme de Dieu qui, avec d'autres de son calibre, vont mobiliser le peuple de Dieu afin d'accomplir l'œuvre de Dieu, et cela malgré l'opposition des ennemis de Dieu. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver le livre de Néhémie, chapitre 5. Ce sera notre texte pour ce matin, Néhémie, chapitre 5. Et permettez-moi juste de vous rafraîchir la mémoire pour nous remettre dans le contexte. Alors, jusqu'au présent, nous avons vu le chapitre 1, fardeau et froid. Néhémie, cet homme qui est en Perse, qui reçoit justement de mauvaises nouvelles à propos de son peuple en Israël, qui a un fardeau pour son peuple et qui va devant Dieu, qui va intercéder avec la foi que Dieu va agir. Chapitre 2, nous voyons la mission et la mobilisation. Dieu ouvre les portes. Néhémie quitte la Perse pour se rendre en Israël en mission, justement pour reconstruire la muraille de Jérusalem et rebâtir le peuple de Dieu. Et il va mobiliser le peuple justement pour qu'il puisse se mettre à l'œuvre. Chapitre 3, nous avons la construction qui commence et coopération. Les gens vont se mettre ensemble, les grands, les moins grands, et tout le monde va se mettre justement à l'œuvre et coopérer pour faire l'œuvre de Dieu. Et finalement, au chapitre 4, nous savons que quand Dieu agit, l'ennemi réagit. Alors, il y a des individus, Sanballat, Tobijar et ses acolytes, qui ne sont pas contents que l'œuvre de Dieu commence à renaître. Ils vont commencer à mettre des obstacles, des menaces. Le peuple aussi devient découragé à cause du travail à faire. Mais nous voyons Néhémie qui a justement cette détermination et qui va encourager le peuple de continuer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'ennemi externe. Mais dans le chapitre 5, nous avons l'ennemi interne qui est l'exploitation qui surgit de l'intérieur et qui menace justement de paralyser l'œuvre de Dieu. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les pivards à l'extérieur qui vont faire tomber l'arbre, mais c'est plutôt les termites à l'intérieur qui vont essayer de faire des ravages. Et j'ai mis justement cette image à l'écran. Quand ils ont en commun Bernard Madoff, Vincent Lacroix et Conrad Black, mais ce sont les gens qui ont abusé de la confiance des investisseurs pour s'enrichir en détournant des sommes astronomiques de l'argent. Et dans le cas de Bernard Madoff, 50 milliards de dollars US, ce qui est la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Et dans notre texte pour ce matin, c'est tout à fait semblable. Nous y trouvons des gens sans scrupules qui cherchent à s'enrichir en s'exploitant les autres. Et dans un contexte particulier, il y a une crise économique en Israël, situation très difficile, et ces gens quand même cherchent à exploiter d'autres. Alors, qui dit que la Bible n'est pas un livre d'actualité? Souvent, on entend, hey, c'est vieux jeu, c'est désuet. Mais Néhémie 5, chers amis, c'est de l'actualité. Alors lisons notre texte ce matin, justement pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Néhémie chapitre 5. Il s'éleva de la part des gens, du peuple et de leurs femmes, de grandes plaintes contre les frères et les juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force. Et nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Verset 6, Néhémie parle, « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. J'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, « Quoi? Vous prêtez intérêt à vos frères? » Et je rassemblais autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, « Nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères les Juifs, vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qui serait vendus. » Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devrez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils leur répondirent, « Nous les rendrons, et nous ne leur demandons rien, nous ferons ce que tu dis. » Alors j'ai appelé les sacrificateurs, devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Et toute l'assemblée dit « Amen ». On célébra l'Éternel et tout le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit le gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 30e année du roi Artaxerxès, pendant 12 mois, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin outre 40 sicles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient de nous des nations d'alentour. On m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de ce que j'ai fait pour ce peuple. Voilà la menace interne que Néhémie doit combattre, l'exploitation financière. Et ce matin, peut-être, même si ce n'est pas dans le contexte ici, ça peut être un autre contexte autre que les finances. Est-ce qu'il est possible que parmi nous ce matin, il y ait des gens qui ont déjà été exploités ou peut-être même en ce moment se sentent qu'ils sont en train de se faire exploiter? Est-ce qu'il est possible que parmi nous, avant de venir au Seigneur Jésus-Christ, que vous avez été impliqués vous-même dans l'exploitation d'autres personnes? Ou peut-être vous connaissez des gens qui sont en train, aujourd'hui, vous les connaissez, de se faire exploiter. Alors, comment devrions-nous réagir face à tout cela? Qu'est-ce que la Bible en dit? Et comment faire, justement, pour résister à cette tentation, parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri, justement, de devenir un exploitant? Alors, j'ai intitulé le message, comme vous pouvez voir, l'exploitation, la menace interne. Et l'idée maîtresse, c'est que l'homme ou la femme de Dieu doit combattre toute forme d'exploitation et par contre, doit montrer l'exemple par un ministère sacrificiel. Et ce matin avec vous, j'aimerais alors considérer trois aspects de l'exploitation que nous trouvons dans Néhémie chapitre 5. Alors, tout d'abord, il y a la réalité et la raison pour l'exploitation. Et selon le dictionnaire Le Petit Larousse, on définit l'exploitation comme suit: l'action de tirer un profit abusif de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est exactement ce que nous voyons ici dans Néhémie chapitre 5. Si vous regardez votre texte encore au verset 1, « Il s'éleva de la part des gens et du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre le frère, les Juifs. » Et si vous allez maintenant au verset 6 et 7, « Je fus très irrité, Néhémie dit, lorsque j'ai entendu leurs plaintes et ces paroles-là, et j'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. » Alors, nous avons ici dans ce texte identifié les exploitants, les abuseurs, qui sont les grands et les magistrats, les gens de pouvoir, les gens de prestige, les gens qui ont l'argent, des gens qui, dans le contexte actuel de Néhémie chapitre 5, auraient pu faire tellement de bien, mais malheureusement qui faisaient tellement de mal. Et plus précisément, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait précisément pour soulever justement ce tollé? Alors, dans un premier temps, vous avez au verset 2, ces riches-là, ces grands, ces magistrats, il y a un refus d'aider les nécessiteux et les plus démunis, ceux qui faisaient partie des grandes familles. Et c'est ce que nous avons au verset 2. Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. La situation est très précaire en Israël. Il y a des gens qui sont démunis, qui sont nécessiteux, et il y a des bouches, de nombreuses bouches à nourrir, comme ils disent. Et ils demandent, il y a une supplication qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Ça, c'est des cris de détresse venant justement de ces personnes qui se trouvent dans la misère. Et ces cris-là qui restent sans réponse de la part des grands et des magistrats, des hommes extrêmement riches, qui avaient une responsabilité, justement, pour les aider. Dans la loi de Dieu, Lévitique 25, au verset 35, exhortait justement ces personnes riches comme ceci: « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. » Toi qui as l'argent dans la poche, toi qui es riche, ton frère est dans le besoin, tu as une responsabilité, Dieu dit à ces personnes, je t'ai béni avec la richesse, tu as une responsabilité avec ton frère, tu vas l'aider. Ce n'est pas à l'écran, mais Deutéronome 15, 7 et 8 ajoute ceci: tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras la main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Alors, il y a un refus, justement, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Deuxièmement, ces gens vont exploiter la situation difficile en Israël, situation précaire économique, à cause d'une famine. Il y a une famine maintenant qui sévit en Israël, et des gens qui ont quelques biens matériels, par exemple un champ, une vigne, une maison, ces gens sont obligés d'hypothéquer ces biens contre justement le blé. juste pour survivre. Et les riches sont là, tels des vautours, pour tirer profit, le maximum de profit de la situation, sachant très bien que la possibilité pour ces gens de réclamer leurs biens dans un temps futur est pratiquement nulle. Et troisièmement, ces riches, ces grands vont exploiter justement cette situation, la cerise sur la sundae. En plus de la famine, il y a les gens en Israël, puisqu'ils sont sous la domination perse, il y a une obligation de payer un tribut au roi de Perse. Et très souvent, ce tribut-là était très excessif, très onéreux. Et les gens sont obligés justement d'aller prêter, demander, emprunter de l'argent de ceux qui sont plus fortunés. Et qui sont ces personnes? Mais c'est les riches, c'est les grands, c'est les magistrats. Et au verset 4, ils vont dire ceci: nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et ça c'était permis par la loi mosaïque, mais le prêteur juif ne pouvait pas prêter à intérêt à son frère juif. C'était formellement interdit par Dieu. Exode 22, 25 va dire ceci: si tu prêtes de l'argent à mon peuple, dit Dieu, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras pas sur son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Levitique 25, 36: tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure, tu craindras l'Éternel. C'est à cause de la crainte de l'Éternel qu'il fallait qu'il agisse comme ceci. Et donc, de Deutéronome 23, 20, Dieu va promettre d'ajouter une bénédiction pour la personne qui allait agir ainsi. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Bref, Dieu disait: écoute, tu n'as pas besoin de prêter intérêt. Sois généreux comme moi je suis généreux, et moi je te bénirai par la suite. Et il est évident, selon le verset 7, que les grands faisaient fi de ces commandements, et tout ce qu'ils avaient, c'était leurs propres intérêts à cœur. Et non seulement qu'ils prêtaient intérêt à leurs frères, s'abusaient d'eux, mais aussi, ils profitaient de la situation économique précaire pour avoir des esclaves. Selon Lévitique 25 encore, un juif pauvre pouvait se vendre à un riche comme mercenaire, mais non pas comme un esclave. Et c'est ce que les pauvres avaient fait à l'époque. Ils avaient justement leur fils et leur fille, on a lu cela, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Alors ils envoyaient justement leur fils et leur fille pour travailler chez les riches. Et plus tard, s'ils avaient des moyens, un esclave, pas un esclave, un mercenaire, quelqu'un qui s'était vendu comme justement serviteur à son frère, pouvait racheter sa liberté tous les 7 ans, ou bien même tous les 50 ans, l'année de la jubilée, du jubilé, sans rien payer, ils pouvaient sortir libre. Mais il est évident dans le contexte du verset 5 que les pauvres étaient dans l'impossibilité justement de repayer leurs dettes, et ça garantissait une source de main d'œuvre bon marché quasiment perpétuelle aux riches. Et ça, c'est la situation qui existait là en Israël. J'aimerais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce qui a motivé ces gens? Qui était le mieux placé pour aider les autres et surtout leur propre compatriote? C'était leur propre frère. Qu'est-ce qui les a motivés à les exploiter, d'abuser d'eux comme nous venons de voir? J'aimerais vous suggérer que le comportement est le symptôme d'une problématique plus profonde. C'est la cupidité. Cette attitude de cœur qui dit: ce qui est à moi, est à moi. Et je m'en servirai comme bon il me semble, et personne ne me chargerait de quelque obligation que ce soit. Et de plus, si je peux en avoir plus, et même si c'est aux dépens d'un autre, je ne m'en priverai pas. Et quel contraste avec cette autre attitude qui dit « Ce qui est à moi est à Dieu ». Je l'offre à Dieu pour qu'il puisse l'utiliser au bénéfice de tous les membres du corps de Christ. Et même si je dois m'arranger avec moins, je m'en réjouis parce que je sais que les vrais trésors sont au ciel. Mais est-ce que seulement les riches sont cupides? Vous savez, quelqu'un a bien dit, je peux me noyer dans l'océan, mais je peux aussi me noyer dans ma baignoire. Alors, personne n'est l'abri à cette tentation. Et la cupidité, ce sujet est vaste. On n'a pas le temps d'explorer en détail ce matin. Je vois que le temps file. Mais j'aimerais vous laisser avec deux textes. Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regardez-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et si tel est le cas, si la cupidité se trouve dans mon cœur, Dieu de grâce, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et Dieu peut nous montrer, il peut sonder nos cœurs et nous montrer si nous sommes tombés dans la tentation de la cupidité. Et deuxièmement, Galates 6, 10, pendant que nous en avons l'occasion, pas après notre mort, ce serait trop tard, mais maintenant, de mon vivant, pratiquant le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Alors, le Seigneur est capable de mettre sur notre chemin, votre chemin, quelqu'un qui est dans le besoin et qui pourrait en profiter justement de l'aide qu'on peut leur donner. Alors, nous avons ici, dans un premier temps, la raison pour l'exploitation, un intérêt motivé par la cupidité. Deuxièmement, dans ce texte, nous avons ici la réaction face à l'exploitation. La réaction face à l'exploitation. Regardez votre texte encore, s'il vous plaît, au verset 6. Néhémie va dire ceci, « Je fus très irrité lorsque j'ai entendu leur plainte. » Et ces paroles-là, et là, nous avons une réaction extrêmement vive de la part de Néhémie face à l'exploitation des pauvres par les riches. Et le mot « très » dans l'original veut dire « extrêmement, grandement, à un haut degré ». Et « irrité » veut dire « s'enflammer, s'échauffer par la vexation ». Et la Bible seulement va nous dire ceci, « je fus aussi saisi d'une violente... » Alors, ce n'est pas une simple irritation. Néhémie est en colère et pas à peu près. Comme on dirait un bon Québécois, le steam il sortait par les oreilles. Et est-ce qu'il y avait tort, justement, de se mettre en colère? Pas du tout. Face à la désobéissance flagrante de la parole de Dieu, face à cette injustice, cette exploitation, il ne pouvait ne pas réagir. Et il fait juste comme Jésus-Christ a fait aussi lui-même quand il est allé dans le temple. Il voyait aussi l'exploitation. Les gens qui étaient là, les échangeurs, qui vendaient justement des pigeons, des brebis, ainsi, qui exploitaient les gens, qui venaient pour adorer. Et on sait que Jésus aussi a piqué une sainte colère. Mais soyons équilibrés. Toute colère n'est pas justifiée. Surtout la colère que nous avons souvent quand on se sent lésé ou blessé. Et ça nous pousse justement à la vengeance. La Bible condamne ce type de colère. Mais ici, c'est justifié. Et Néhémie, homme équilibré, ne va pas agir sur la pulsion de la colère. C'est seulement Dieu qui peut agir quand il est en colère. Mais nous, les humains, nous avons tant besoin de respirer. OK, c'est justifié, mais il faut prendre le temps. respirer tranquillement par le nez. Et c'est ce que Néhémie va faire. Il dit ceci, j'ai résolu de faire. Le texte dit, je délibérerai donc en moi-même ou avec moi-même. Qu'est-ce qu'il allait faire? De faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et quand il s'agit du péché, la confrontation est nécessaire. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la situation ne disparaîtra pas d'elle-même. Et deuxièmement, Néhémie sait que cette situation-là, cette exploitation-là, pour être une source de division, il y a une chicane entre les fortunés, les moins fortunés, des grandes plaintes, et ça peut diviser le peuple de Dieu, et aussi être un entrave à cette œuvre de reconstruction qu'il est en train de faire. Alors, il faut qu'il agisse. Il faut qu'il agisse. Alors, nous avons une réaction engendrée par la colère, nous avons une résolution qui mène à la confrontation. Et dans le verset 7b, nous avons aussi une confrontation et des réprimandes basées sur des contradictions. Verset 9, Néhémie va leur dire, ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites. Vous agissez mal. Pourquoi? Il va leur donner, tac, 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 trois raisons principales pourquoi est-ce que ils agissaient mal. Il leur a dit, vous vendrez vous-même vos frères, vous les obligez de devenir esclaves, et pire encore, ils sont vos propres esclaves. Et il va leur dire ici que c'est une contradiction au plan de Dieu pour Israël. Dieu les avait libérés de 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils venaient de sortir de 70 ans d'esclavage. Où est-ce qu'ils étaient en exil en Perse? Et même, il y avait des propres Juifs qui étaient esclaves aux nations, et les Juifs eux-mêmes avaient racheté ces esclaves. Et là, Néhémie va leur dire, écoute, ça c'est le plan de Dieu pour la nation d'Israël, d'être libérée de l'esclavage. Et vous, vous êtes en train maintenant de remettre le peuple de Dieu dans l'esclavage. Et même, ils sont vos propres esclaves. Et ce n'est pas correct. Comme on dit souvent en anglais, « Come on, man! » Il est fâché contre eux autres, puis il leur dit exactement, « C'est pas correct. » Deuxièmement, la deuxième chose qu'il voit, c'est une contradiction. Parce que vous agissez mal, parce que vous désobéissez de façon flagrante contre la parole de Dieu, et vous êtes supposé d'avoir un bon témoignage face aux païens. Et quelle contradiction maintenant démontrée par votre désobéissance? Vous prêtez intérêt, comme font les païens, qui peuvent maintenant se moquer de vous en vous disant, vous êtes des escrocs, vous êtes pareils comme nous. Parce qu'à l'époque, l'intérêt était excessif. Alors, Néhémie dit, écoute, vous avez aussi un témoignage face aux nations. Regardez ce que vous faites. Come on! Puis, troisièmement, vous agissez mal parce que ce que vous faites, c'est en contradiction. Moi aussi, il a dit, mes frères et mes serviteurs, on les a prêtés l'argent. Je vous ai donné un bon exemple de compassion, de générosité, et vous, vous refusez de faire pareil. Ce n'est pas correct. C'est une contradiction. Mais Néhémie, il ne va pas arrêter là. Après avoir réprimandé ces riches et ces pauvres, et ces riches-là, il va aussi les amener et les exhorter à la repentance. Et plus que cela, les œuvres dignes de la repentance, il va leur dire, rendez aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers. Et remarquez leur promesse au verset 12, nous les rendrons et nous leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. C'est beau d'avoir des belles promesses, n'est-ce pas? Mais comme on dit en bon québécois, il faut que les bottines suivent les babines. Et c'est ce qu'il va faire. Il va appeler les sacrificateurs, ils vont le faire jurer devant les sacrificateurs, puis même ils vont invoquer une menace, une malédiction sur eux autres si vous ne tenez pas votre parole. Tellement qu'il est sérieux. Et le peuple va dire amen. Tout est bien qui finit bien. L'unité est restaurée. Amen. On est d'accord avec ça? Deuxièmement, nous avons la pureté est retrouvée. Ces gens sont repentants. Ils vont obéir. Et le péché qui était là, qui menaçait de diviser le peuple, est réglé. Alors, on peut adorer parce que l'assemblée maintenant est pure. Il n'y a plus de péché. Et finalement aussi, nous avons la sincérité éprouvée. Les actions des grands, ils ont dit, le peuple tient la parole. Et laissez-moi aussi vous poser une autre question. Qu'est-ce qui a motivé Néhémie d'agir ainsi, de confronter ces gens affluents et d'affluence? On peut les appeler des top guns dans Israël. Il est allé justement les parler en face, là. J'aimerais vous suggérer que ça a pris du courage, du guts, justement pour le faire. Néhémie est un homme de prière. Le livre de Néhémie transpire justement de ses prières. Et sans doute, il y avait la ferme conviction que Dieu était avec lui. Et sans doute, il s'appuyait sur la promesse que Dieu avait donnée aussi à un autre leader, Josué. Il avait dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Alors, avec cette ferme conviction que Dieu était là avec lui, il avait ce courage d'aller confronter justement ces gens qui exploitaient, qui abusaient le compatriote. Et ça, c'est un homme, justement, un modèle de courage qui amène à une intervention. Et je termine avec ceci, je dois aller pédaler. Troisième chose, on voit la résistance face à l'exploitation. Verset 15, Néhémie, il va parler justement à 19, il va parler des gouverneurs qui étaient avant lui, qui étaient des escrocs, qui réclamaient justement des revenus du gouverneur et qui opprimaient le peuple. Et il a dit, je n'ai pas agi de leur sorte. Quelqu'un a bien dit, pour tous les 100 hommes qui sont capables de résister à l'adversité, il y a seulement un qui est capable de résister à la prospérité. Mais ça, c'est vrai dans la vie de Néhémie. Il y avait des gouverneurs avant lui qui avaient exploité le peuple, qui avaient abusé le peuple. Et Néhémie dit, je n'ai pas fait ça. Et pourquoi? C'était à cause de la crainte de l'Éternel. Et ce n'est pas cette crainte-là qui est une crainte d'angoisse ou d'anxiété, d'appréhension. C'est une crainte de Dieu, un respect, c'est une révérence. Cet homme qui passe du temps dans la prière, il connaît son Dieu. Et il sait qu'il ne peut pas aller contre la loi de Dieu. Et il a ce profond désir de se prosterner devant Dieu et de lui être obéissant. Et il dit, j'avais l'occasion, j'avais 12 ans, j'aurais pu faire comme les autres, je ne l'ai pas fait parce que je crains mon Dieu. Et il y a des beaux versets dans la parole de Dieu et je les vous donne rapidement. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, par la crainte de l'Éternel, se détourne du mal. Et ça, c'était aussi le témoignage de Job. Un homme intègre et droit craignait Dieu et se détournait du mal. Et je vous donne justement, et ça, comme je dis, ça, c'est le besoin criant de nos jours, avec tous les scandales qui passent au Parlement, partout. On a besoin, dans nos églises aussi, des hommes et des femmes de Dieu, des jeunes aussi, des personnes intègres qui, par crainte de Dieu, qui va marcher droit. Et je vous donne rapidement les trois aspects, justement, de Néhémie. Au lieu d'être un exploitant, d'être un abuseur, il exerce un ministère où est-ce qu'il est prêt au sacrifice pour les autres. Et il sait justement, il n'a pas réclamé des revenus du gouverneur parce qu'il sait d'où viennent ses revenus. c'était justement ses compatriotes qui payaient, ce n'est pas le roi de Perse là, qui payait Néhémie, et qui donnait les revenus du gouverneur au gouverneur d'Israël. Ça venait justement du tribut que le roi avait levé sur le peuple. Alors Néhémie savait que son peuple, là, il se sacrifiait pour être capable de payer le tribut du roi. Il dit non, je n'ai pas réclamé ça, je vais renoncer à mes droits, même si je l'avais. Deuxièmement, il donne de son temps. C'est un homme qui était généreux de son temps. Il est allé travailler aussi à la muraille pour la reconstruction. Et troisièmement, il va payer de sa propre poche. Il y a un cabinet. Il y a des gens qui viennent de partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, j'ai payé de ma poche justement pour la nourriture et pour souvenir à leurs besoins. Quel contraste avec ce qu'on voit aujourd'hui là, dans la société. Et Némi, il ressemble à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a renoncé à ses droits, qui est descendu ici-bas sur la terre. Lui qui était disponible, qui était généreux de son temps. Il y avait des nécessiteux, des boiteux, des aveugles, des lépreux, des gens de partout. Et Jésus-Christ, même, il dit des fois, il ne pouvait même pas avoir le temps de prendre la nourriture. Il était disponible. Et aussi, finalement, il a payé le prix ultime, donné sa vie, sa propre vie, justement, pour vous et pour moi. Le Fils de l'homme y a dit, est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme le rançon de plusieurs. Je termine avec une autre question. Ce matin, avez-vous un ministère sacrificiel, vous qui connaissez le Seigneur et là où est-ce que Dieu vous a placé? Et plus particulièrement, avez-vous un ministère sacrificiel dans l'Église? Et vous savez, si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, vous êtes sauvé par la grâce de Dieu. Dieu vous a donné un don. Un don, vous êtes riche, pour enrichir le peuple de Dieu. Qu'importe ce qu'est votre don, la Bible nous dit que nous devrions mettre à la disposition de nos frères les diverses grâces de Dieu, au service de nos frères des différentes grâces de Dieu. Et ce matin, si vous n'êtes pas en train de mettre votre don au service des autres. Et ce que je vais dire ici, je vais dire par amour. Si vous venez ici dimanche après dimanche pour recevoir et jamais redonner en retour, vous êtes en quelque sorte en train d'exploiter le système. Et je dis ça par amour. Et j'aimerais vous exhorter ce matin de ne pas vous priver. Parce qu'il y a une grande joie dans le service. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a plus de joie qu'à donner, qu'à de recevoir. Et j'aimerais vous exhorter de ne pas vous priver justement de cette joie que le Seigneur peut vous donner en mettant votre don au service de vos frères et vos sœurs. Et finalement, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, mais laissez-moi vous dire qu'il est ici ce matin. Non, pas comme les riches que nous avons vus en Némie, chapitre 5. Le Christ n'est pas un exploiteur ni un abuseur. Il est ici, la main ouverte. Parce qu'il ne vaut pas votre argent. Il est mort sur la croix pour vous. Il veut vous offrir son pardon et vous donner, justement, la vie éternelle. Et ce matin, il vous demande deux choses. De vous repentir de vos péchés. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Et le pécheur qui se frappe sur la poitrine et qui dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur », Dieu va répondre à cette prière. Et deuxièmement, après la repentance, il y a le pas de la foi. Au Seigneur Jésus. La Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je vous laisse avec une dernière question. Ce matin, voulez-vous accepter le pardon de Dieu et recevoir le don de la vie éternelle afin qu'il ne soit trop tard? On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Une parole de vérité, d'actualité, Et tout d'abord, nous te remercions pour le Christ, lequel ce serviteur humble qui est venu, qui même s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Cet homme qui est le prince, le créateur de l'univers, et il est venu comme un humble serviteur. Alors Seigneur, que tu nous donnes aussi d'avoir les mêmes sentiments qui existaient en Jésus-Christ. Merci pour la grande famille de Dieu, merci pour les dons que tu nous donnes, et par ta grâce, Seigneur, que nous puissions nous servir les uns les autres. Et ce matin, s'il y a quelques-uns parmi nous qui ne te connaissent pas, Seigneur, notre prière et notre supplication à toi, c'est que tu puisses te révéler à ces personnes, que tu les amènes à la repentance, afin qu'ils puissent s'humilier sous ta main puissante, recevoir le pardon de leurs péchés, et aussi recevoir le don de la vie éternelle. Bénis ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta patience, ta persévérance. Merci que tu es en train de bâtir ton Église. Merci aussi de ce privilège d'être co-ouvrier avec toi. Sépare-nous avec ta bénédiction. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.